souhaite une fleur, oui, la fleur de l'info.
Bougez pas, laissez-moi 2 heures et je vous répondrai du tac au tac. Allez, merci Charline, merci tout le monde. À demain, bonne soirée. Nous, on prend nos quartiers, le 18-20 de France Inter est ouvert. Installez-vous et bienvenue sur la planète et sa banlieue. Amélie Perrier en tête, maillot jaune du 18-20 pour le journal. Bonsoir Amélie.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel de ce jeudi commence avec un changement de modèle.
Une autre agriculture pour faire face au réchauffement de la planète, au réchauffement de nos régions françaises. Un rapport sénatorial l'affirme, il faut cultiver autrement et dès maintenant. Un chef de l'ETA arrêté dans les Alpes, l'opération franco-espagnole pose question. Parcoursup, les futurs étudiants vont avoir besoin de soutien. Depuis hier soir, ils apprennent au fur et à mesure où ils sont acceptés. Une autre plateforme, SOS Inscription, leur propose de l'aide. Et puis nous irons à Cannes pour la montée des marches. Elton John, on attend la superstar de la pop pour le biopic qui lui est consacré, Rocketman.
À 18h15, un jour dans le monde, en Europe, avec les eurosceptiques nationalistes et populistes, un grand meeting est annoncé dimanche à Milan, autour de la Liga de Matteo Salvini, avec Marine Le Pen, avec les Allemands, les Finlandais, les Danois, les Espagnols. Mais au fond, qu'est-ce qui les réunit tout cela? Nous sommes en République centrafricaine aussi, où les violences contre les civils ne faiblissent pas. Vous faiblissez peu, 19h20, le téléphone sonne, jolie surprise pour vous ce soir. Nous, on surkiffe à l'idée d'accueillir pour vous Alain Rey et Riyad Satouf, l'un est maître mot pour le petit Robert, l'autre l'a croqué en couverture et emmène avec lui Esther qui a 13 ans maintenant et qui elle aussi a des nouveaux mots dans sa besace. On aime bien cadoter nos auditeurs, c'est un vrai mot et c'est ce qu'on fait ce soir au 01 45 24 7000.
France Inter.
Il n'y a plus le temps de tergiverser, il faut changer nos pratiques face au réchauffement climatique.
Et nos pratiques agricoles notamment. Un rapport sénatorial vient d'être publié et engage l'État et les professionnels à faire plus, à se réformer rapidement. La température monte, en particulier dans le sud de la France. La sécheresse et les événements météo violents bouleversent les cultures. Bonsoir Célia Quiret.
Bonsoir Amélie.
Le rapport des sénateurs est clair, il faut changer dès maintenant notre modèle agricole.
Oui, c'est une vraie alerte, presque même un appel au secours. L'agriculture risque de s'effondrer si elle ne change pas, estime par exemple Ronan Dantec, sénateur écologiste de Loire-Atlantique. Il faut donc en urgence se tourner vers l'agroécologie où le bio, c'est une question de survie.
L'agriculture française telle qu'elle est ne résiste pas. D'ores et déjà, dans certaines régions, je pense à l'élevage dans le Limousin, on est face à des problèmes qui n'ont jamais été connus et qui remettent en cause le modèle économique de l'élevage. Il faut obligatoirement une mutation des pratiques avec des variétés qui consomment moins d'eau, plus de services d'agroécologie avec des haies qui évitent la sécheresse, qui gardent de l'eau, moins de pesticides bien évidemment. Il faut sortir du tout maïs et des variétés de maïs qui consomment le plus d'eau. Mais ça, c'est une évidence.
Mais pour ça, il faut être aidé. Or, aujourd'hui, les agriculteurs en transition sont bien seuls. Voilà ce que dénonce le rapport. Pour le sénateur d'hiver gauche des Alpes de Haute-Provence, Jean-Yves Roux, l'État doit passer à la vitesse supérieure pour aider financièrement les agriculteurs.
Ce que je voudrais, moi, c'est qu'on mette une planification avec un agenda et des dates et qu'on puisse vraiment tenir par rapport à cet engagement. Et je pense que toutes les filières agricoles vont répondre à cet enjeu. Par exemple, le blé, peut-être qu'il y a des endroits où on fait beaucoup de blé, mais peut-être faut changer la culture. Je pense que ça va passer vite, parce que 2050, c'est demain.
Les sénateurs demandent donc de l'argent pour la recherche, un volet 2 de la politique agricole commune qui accélère la transition et un changement de comportement des assureurs au bénéfice des agriculteurs qui prennent des risques pour évoluer. Bref, un plan hors sec pour préparer cette agriculture de crise en 2050 avec un thermomètre qui peut grimper de 5 degrés l'été dans certains champs.
Merci Célia Quiret, notre spécialiste environnement. 4 ans de prison requis contre Patrick Balkany, le parquet national financier a également demandé 4 ans dont 2 avec sursis pour son épouse et première adjointe Isabelle Balkany et 10 ans d'inéligibilité pour le couple élu à la mairie de Levallois-Perret. Le PNF considère qu'ils ont effectivement omis de payer l'impôt sur la fortune et sous-estimé leurs revenus. Le second volet du procès pour blanchiment et corruption débute lundi et doit durer là jusqu'au 20 juin. Il y aura alors un autre réquisitoire du parquet. Jugement le 13 septembre. Lui est médecin et soupçonné d'avoir empoisonné ses patients. L'anesthésiste de Besançon est poursuivi pour 17 nouveaux cas suspects d'empoisonnement, en plus des 7 pour lesquels il a déjà été mis en examen il y a 2 ans. Parmi ces cas, 7 décès. Le dossier d'un enfant de 4 ans finalement sauvé après 2 arrêts cardiaques. Les enquêteurs soupçonnent cet anesthésiste d'avoir volontairement modifié les injections pour prouver ensuite ses talents de réanimateur. C'est le Pays Basque qui a été au cœur du combat de sa vie, mais c'est dans les montagnes de Haute-Savoie que l'ancien chef politique de l'ETA a été arrêté ce matin à l'aube à Sallanches. La fin de 16 ans de cavale pour José Antonio Urrutiko Goetschea. Il a déjà été condamné il y a 2 ans en son absence pour participation à une association de malfaiteurs terroristes. Influent au sein de l'ETA, il est à l'origine du cessez-le-feu de 2006. Son arrestation est aujourd'hui surprenante pour les spécialistes. Écoutez le point de vue du professeur de droit Jean-Pierre Massias.
D'un côté, c'est une arrestation assez logique du point de vue pénal, compte tenu de la gravité des charges qui pèsent contre lui et du fait qu'il a été condamné déjà en France. D'un point de vue politique et impliqué dans le processus de paix, elle est beaucoup plus compliquée, dans la mesure où elle survient alors que le conflit est terminé, que les armes ont été rendues, que Théa s'est dissous, que Yoshu Ternera a joué un rôle dans cette dissolution. Donc c'est une arrestation à la fois logique et extrêmement contradictoire. Alors les conséquences, je dirais pénales, elles sont d'ailleurs assez floues parce qu'il risque d'être un prisonnier tout aussi encombrant que valorisant pour ceux qui l'ont arrêté. Il est manifestement malade. Le sens politique, il semble indiquer que les gouvernements français et espagnols, puisqu'il y a eu une collaboration entre eux, continuent la répression antiterroriste, quel que soit le contexte. Mais replacé dans l'environnement politique très complexe et très important du Pays basque contemporain, c'est une arrestation qui me paraît, moi, très problématique.
Le professeur de droit Jean-Pierre Massias, il répondait à Oyana Larsabal.
Et la suite du journal Amélie, c'est le verdict qui est tombé hier soir pour les futurs étudiants, le verdict Parcoursup.
Des vœux acceptés pour continuer ses études après le bac ou son nom sur liste d'attente. La plateforme est mise à jour quotidiennement en fonction des choix des futurs étudiants d'accepter ou pas les propositions. Une période stressante. Alors pour venir en aide aux jeunes, un autre site existe, SOS Inscription. Il est tenu par des bénévoles de la FCPE, les parents d'élèves, et de l'UNEL et de l'UNEF pour les étudiants. L'objectif, Sonia Prince,
bonsoir.
De répondre à l'angoisse des candidats.
Oui, il faut les rassurer et expliquer que ce n'est que le début de la procédure, que les réponses vont arriver au fil du temps. Hier soir, Louis Boyard, le président de l'UNL, syndicat lycéen, a reçu des dizaines d'appels.
On était au téléphone jusqu'à 1h du matin pour pouvoir aider les lycéens, donner des conseils et surtout les rassurer, parce que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, mais être refusé partout, être 8000ème en attente, c'est une souffrance. C'est très très dur à avaler et c'est tout un projet de vie qui s'écroule sous nos yeux en un jour et en un clic. On a des lycéens qui sont en pleurs, on a des lycéens qui ont peur et surtout on se sent seul. Et avec notre plateforme, on essaie de remettre un petit peu d'humain dans la plateforme. Et donc, puisqu'il n'y a pas d'accompagnement à l'orientation et d'aide avec Parcoursup, on fait un peu le travail que le ministère ne fait pas.
Alors sur le site sos-inscription.fr ou au numéro vert 0806 079 069, les candidats peuvent trouver de l'aide et des conseils comme ceux que donne Mélanie Luce, la présidente de l'UNEF, syndicat étudiant.
Surtout ne pas démissionner de la plateforme, c'est très important. Surveiller la plateforme tous les jours pour voir s'il y a des évolutions. Bien accepter des vœux si jamais il y a un vœu qui correspond à ce qu'ils veulent l'accepter en respectant les délais. Et puis nous contacter pour la moindre question, donc sur SOS Inscription, la hotline également.
Les syndicats étudiants et lycéens demandent des créations de places supplémentaires. Il y en avait eu 30 000 l'an dernier, mais aucune cette année.
Merci beaucoup Sonia Prince, notre spécialiste éducation. Encourageant aussi les chiffres du chômage, il continue de baisser selon les statistiques de l'INSEE. Au premier trimestre, il atteint son plus bas niveau depuis 10 ans, 8,7% de la population active. Mais c'est une baisse lente et l'on est encore loin des 7% voulus par l'exécutif à la fin du mandat, dans 3 ans. D'ailleurs, quelle est la part de responsabilité du gouvernement dans ce recul? Nous avons posé la question à l'économiste Éric Heyer.
Pour l'instant, assez peu de choses. Hein, parce que, vous voyez, la principale réforme menée par ce gouvernement, ce n'est pas le CICE, le pacte de responsabilité qui était du gouvernement précédent, c'est plutôt la réforme sur le marché du travail, les ordonnances pénicaud. Et ça, on sait que ce type de réforme met à peu près 2 ans, 3 ans avant d'imprégner l'économie. Donc, ce n'est pas lié à cela. On peut dire que la croissance économique est un peu plus faible depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé. Alors, parce qu'il y a un ralentissement mondial, premièrement, donc ça c'est pas la faute de ce gouvernement, mais il y a tout de même eu un calendrier fiscal qui a pas joué en faveur de l'économie française et qui a même poussé un peu au gilet jaune, et donc la crise sociale a pas aidé à avoir une bonne performance économique. Et donc globalement, la baisse du chômage ne peut pas être attribuée à ce gouvernement, donc aujourd'hui c'est encore à venir plutôt l'impact des réformes.
L'économiste Éric Heyer, il était l'invité de Bruno Duvic à la mi-journée. Le Conseil constitutionnel vient de valider une grande partie de la loi Pacte et notamment les privatisations du groupe ADP, Aéroport de Paris, et de la Française des Jeux. En revanche, les sages censurent des articles de la loi Pacte qui mettaient fin aux tarifs réglementés de vente de gaz et d'électricité. Un appel à la grève des cheminots de la SNCF pour le 4 juin. Les 4 syndicats représentatifs, CGT, UNSA, Sudrail et CFDT, veulent peser sur les négociations dans le cadre de la réforme ferroviaire et défendre, je les cite, les droits des cheminots. Édouard Philippe lui fait marche arrière sur sa limitation à 80 km/h sur les routes secondaires face à l'impopularité de la mesure. Le Premier ministre ouvre la voie à un assouplissement. La règle de principe demeure au niveau national, mais les présidents des départements auront le pouvoir de revenir à 90 km/h, vitesse maximale sur certains tronçons. La politique, c'est aussi la campagne pour les élections européennes du 26 mai en France. La majorité En Marche convoque ses candidats et des ministres à un marathon de débats. 12 heures de débats nous promet l'AREM dimanche pour répondre aux questions des internautes, et la majorité n'exclut pas la participation d'Emmanuel Macron. Le président qui recevait aujourd'hui une figure de l'Amazonie, Raoni, cet Indien reconnaissable au plateau qu'il arbore dans sa lèvre, est venu chercher le soutien du chef de l'État pour lutter contre la déforestation. Elle ne cesse de progresser, 5 à 6 000 kilomètres carrés chaque année en Amazonie. Et depuis l'arrivée au pouvoir du président brésilien Jair Bolsonaro, la situation devient critique. Olivier Poujade a suivi la visite de Raoni à l'Élysée.
Sa coiffe en plume de toucan jaune fait encore figure d'autorité, mais à 87 ans, Raoni a voulu s'entourer pour cette dernière tournée de jeunes chefs de communauté. Tapi est l'un d'entre eux. Il sera le successeur de Raoni pour poursuivre sa lutte et témoigner des ravages des exploitations agricoles qui cernent désormais sa communauté Yawalapiti dans le Xingu, au centre du Brésil.
Tout autour de notre parc, vous avez des champs de soja, du soja partout et du maïs. Et le venin qu'ils épandent sur le soja et le maïs se déverse dans l'eau. Tout ça tue les poissons, les animaux aquatiques. Ce que je vois aujourd'hui avec cette progression de la déforestation par l'agrobusiness, c'est que ma communauté est déjà touchée. Quand l'avion passe pour diffuser le venin, c'est sur nous qu'il retombe. Et les enfants qui commencent à avoir des démangeaisons, ils ont les yeux boursouflés.
L'institution sur laquelle pouvaient s'appuyer les communautés indigènes pour défendre leurs terres est en train d'être démantelée par Jair Bolsonaro. Raoni et ses chefs cherchent donc aujourd'hui de l'argent, autour d'1 million d'euros, pour pouvoir notamment baliser leur territoire, investir aussi dans des drones de surveillance pour que soient constatées toutes les exploitations illégales de la forêt amazonienne. À l'Élysée, Olivier Poujade, France Inter.
Un 23e candidat à l'investiture démocrate aux États-Unis. Tout le monde veut devenir président là-bas. Le maire de New York, Bill de Blasio, se lance dans la course. Son potentiel adversaire en 2020, Donald Trump, new-yorkais lui aussi, lui a adressé un tweet dans la foulée. « C'est une blague », écrit l'actuel chef de l'État. « Mais si vous aimez les impôts élevés et la criminalité, il est pour vous. New York le déteste ». Fin de citation.
Allez, on termine à Cannes, sur la croisette, Amélie.
Et Cannes, ce n'est pas que du cinéma, c'est aussi de la pop parfois. Ce soir à l'affiche, Rocketman, le biopic sur Elton John, la superstar aussi excentrique qu'engagée dans la lutte contre le sida notamment. Un répertoire immense, 300 millions de disques vendus et un personnage plein de failles. L'histoire méritait donc un film. Bonsoir Corinne Pellissier.
Bonsoir.
Vous êtes sur les marches et on attend donc Elton John en chair, en os et en paillettes.
Oui, c'est imminent, on a commencé à diffuser dans les enceintes du tapis rouge quelques morceaux d'Elton John, dont le fameux I'm Still Tending, dont le clip avait été tourné ici à Cannes il y a quelques années. L'équipe du film devrait fouler le tapis rouge d'ici une quinzaine de minutes. On attend le réalisateur Dexter Fletcher, oscarisé cette année avec Bohemian Rhapsody, un autre biopic consacré lui à la vie de Freddie Mercury. 4,5 millions d'entrées en France, ce sera le record à battre, ou en tout cas le curseur pour estimer la prestation dans Rocketman de Taron Egerton. Le comédien qui incarne le chanteur, son génie, ses excès, il sera là bien évidemment lui aussi sur les marches du palais pour défendre ce film dans lequel il apparaît complètement méconnaissable. Mais je ne vais pas vous mentir, celui que le public attend ici ce soir, c'est le chanteur Elton John. Il sera là, c'est confirmé. Ses dates de tournée européenne lui permettaient de se libérer pour assister à la première mondiale du film. Et la question évidemment que tout le monde se pose aux abords du tapis rouge, c'est quelle tenue, comment sera habillé le roi de l'excentricité et de la démesure. Sera-t-il là aussi pour chanter ? Les rumeurs depuis deux jours sont devenues complètement folles. Un piano, apparaît-il, était installé dans le palais. On parle aussi d'un concert surprise sur la plage à l'occasion de la soirée donnée en l'honneur du film. Vous savez, ce sont les fameuses fêtes accessibles uniquement sur invitation. Celle de ce soir sera sans doute l'une des plus prisées du festival. En attendant, la semaine prochaine, la venue de Brad Pitt, Leonardo DiCaprio pour le nouveau film de Quentin Tarantino.
She packed my bags last night, pre-flight. Rocketman sur bah Elton John, voilà, bah c'est ce soir sur La Croisette. Merci beaucoup Corinne Pellissier qui était en direct avec nous.
Et merci à vous aussi Amélie Perrier pour le journal. À bientôt, c'est-à-dire dans 20 minutes à peu près.
Oui, je reviens sous les radars ce soir en Afghanistan. Les femmes ne sont pas seulement victimes des talibans, les crimes conjugaux sont un fléau là-bas. Et puis en Chine, lors de mariages collectifs, le milliardaire Jack Ma encourage ses employés à un marathon du sexe. Et puis enfin, en Corée du Sud, eh bien, on donne des cours de rancard à l'université. C'est très sérieux.
Allez, ce sera tout à l'heure autour de 18h37. Ce soir, on s'interroge sur la capacité des extrêmes droites européennes à former un groupe. En tout cas, elles se réunissent à nouveau et elles se réunissent nombreuses à Milan dimanche autour de Matteo Salvini. Nous sommes en Centrafrique ce soir où les violences contre les civils sont encore là malgré des accords de paix incertains. Une force des Nations Unies qui a du mal à s'imposer. Et puis 19h20, le téléphone sonne. Allez-y, profitez-en. Le standard est ouvert. On vous offre Alain Rey et Riyad Satouf ensemble en studio ce soir. L'un met des mots dans le Robert, l'autre des mots dans la bouche de la jeune Esther qui a 13 ans maintenant. Les deux se croisent dans le nouveau petit Robert 2020 de la langue française. L'un et l'autre sont très amicieux. C'est un nouveau mot, ça veut dire affectueux et câlin. Enfin, en tout cas, on l'espère. Allez, 01 45 24 7000.
La météo avec Air France. Et la France est plus proche. Envolez-vous du nord au sud et de l'est à l'ouest en moins de 2 heures. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Et Sébastien Léas, retour de la pluie, bravo, dès ce soir.
Oui, une perturbation arrive sur le sud du pays. Les premières pluies aborderont le Pays Basque dès 22 ou 23 heures, puis vont s'étendre à un large quart sud-ouest demain matin jusqu'au Gard et à l'Ardèche. L'après-midi, les averses toucheront toutes les régions de la moitié sud, ainsi que le Jura, avec parfois de bonnes intensités et des orages, en particulier sur l'Occitanie et les Pyrénées-Atlantiques. Sur le reste du pays, le temps sera un peu plus clément, mais assez nuageux. Entre la Bretagne et les Hauts-de-France, il faudra tout de même composer avec quelques averses demain après-midi, et puis le soleil arrivera à se montrer essentiellement en Alsace et en Lorraine.
Et aussi, chute des températures, surtout pour le sud.
Oui, forcément, avec ce temps pluvieux, on attend une forte baisse des maximales demain. On va parfois perdre 5 à 10 degrés par rapport à aujourd'hui. Comme à Toulouse, cet après-midi, il a fait 24 degrés, et demain après-midi, il ne fera plus que 14 degrés. Même température prévue pour Bordeaux demain, alors qu'il fait actuellement 22 degrés. Demain après-midi, il fera 15 degrés à Nîmes et à Clermont-Ferrand, 17 degrés pour Marseille, Lille et Brest, 18 degrés à Lyon, Nice et Rouen. On ira quand même jusqu'à 21 degrés pour Paris et pour Metz.
Sébastien Léas de Météo France, merci, à tout à l'heure, 19h20.